Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous fêtons aujourd'hui l'épiphanie de notre Seigneur, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur. Le Sauveur, déjà connu des âmes simples, reconnu par les bergers, à qui il s'est fait connaître à Noël, appelle aujourd'hui toutes les nations qui doivent former son Église à venir le reconnaître et l'adorer. Les mages sont nos représentants auprès de lui. Ce sont nos prémices dans la foi. Ils représentent toute l'Église. Nous l'avons ce matin lu dans l'antienne des Laudes à l'Office. Voici le texte de cette antienne qui annonce ce mystère d'une manière très profonde. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux céleste. Ce sont comme les noces de l'Église et de notre Seigneur qui sont célébrées aujourd'hui. Et cela de trois manières que symbolisent les trois mystères que l'Église célèbre en ce jour de l'Épiphanie. Donc l'antienne continue. Parce que le Christ a lavé ses crimes, les crimes de l'Église, les crimes des nations, dans le Jourdain. Et de fait, c'est le mystère du baptême de notre Seigneur que nous fêterons, plus spécialement le 13 janvier, pour l'octave de l'Épiphanie. Ensuite, le texte continue, « Parce que les mages accourent avec leurs présents aux noces royales. » C'est le mystère de la venue des mages que nous fêtons plus spécialement aujourd'hui. Et puis enfin, l'antienne termine, « Parce que les convives sont réjouis par le vin qui a été tiré de l'eau. » L'eau changée en vin, c'est le mystère des noces de Cana que l'Église célébrera plus spécialement le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Et ces trois mystères n'en forment qu'un. L'union de ces trois mystères représente les noces du Christ et de l'Église dans la foi. Et c'est la raison pour laquelle, jadis, dans l'Église primitive, on n'appelait pas cette fête l'Épiphanie, mais les Épiphanies, pour bien montrer ce triple mystère. Ces noces se réalisent dans la foi, et c'est pourquoi les mages ont eu connaissance de la naissance de l'enfant Dieu par une étoile. Cette étoile, c'est l'image de la foi précisément, à laquelle toutes les nations sont appelées. C'est ce que les pères de l'Église ont souligné. Saint Jean Chrysostome, par exemple, parlant de cette étoile, dit ceci, « Par condescendance, Dieu a voulu les appeler, les mages, par des signes qui leur étaient familiers. En effet, les mages venus d'Orient étaient accoutumés à observer le mouvement des astres, à la différence des bergers qui étaient des juifs et qui, eux, apprennent la naissance de l'enfant Dieu par des anges. Saint Augustin voit plus loin, lui, et il discerne dans cette étoile la figure de la foi, précisément. Il dit ceci, « Abraham reçut la promesse d'une postérité innombrable, qu'engendrerait non pas sa chair, mais la fécondité de sa foi. Cette postérité est comparée à la multitude des étoiles afin de lui faire espérer une descendance céleste. C'est pourquoi les gentils, les nations, les païens, que désignaient ces étoiles, sont encouragés à venir à la foi par l'apparition d'un nouvel astre, d'une nouvelle étoile. » Et puis Saint Léon le Grand, que nous avons lu ce matin dans les matines, confirme cette interprétation en disant « Cette étoile frappa de son éclat leur regard corporel, mais un rayon plus éclatant de vérité pénétra leur cœur de la clarté de la foi. » Donc cette étoile des mages est l'image, est l'image de la foi. Et en effet, la manifestation de Dieu dans l'âme chrétienne se fait par la foi. Et cette manifestation est semblable, en quelque sorte, au lever et à la rutilance d'une étoile. Une étoile ne brille pas comme le soleil. Son éclat est beaucoup plus pâle. Notre Seigneur est appelé, justement, précisément, dans la Sainte Écriture, le soleil de justice. Mais ici-bas, pour nous, qui ne sommes encore que des viateurs, qui sommes sur terre, notre Seigneur ne se montre encore que comme une étoile. Au ciel, si nous jouissons de la vision béatifique, après une vie de mérite, alors nous verrons Dieu face à face, comme le soleil, et non plus dans un miroir, comme dit saint Paul. Mais ici-bas, la lumière de la foi est une lumière tempérée. qui dissipe les ombres de l'erreur, du péché, mais qui garde une certaine part d'obscurité. Le père Garrigou-Lagrange emploie l'image du clair-obscur de la foi. C'est une image qui est très bien trouvée. C'est comme un point lumineux qui brille au milieu des ténèbres de la nuit, les ténèbres du monde. Mais un point suffisamment lumineux pour qu'on s'oriente et qu'on marche dans la bonne direction. Mais c'est un point lumineux qui est encore environné de ténèbres. C'est notre situation ici-bas. Alors cette lumière qui est un petit peu comme le cierge qu'on donne aux baptisés, aux nouveaux baptisés, on lui donne une petite lumière, un petit cierge, pour signifier la même chose précisément. Cette lumière donc nous est donnée pour qu'on marche. Vous voyez que les mages, dès qu'ils voient l'étoile, ils viennent vers l'enfant, ils suivent l'étoile. Cette lumière nous est donnée pour qu'on avance vers le ciel, comme les mages qui marchent vers Bethléem. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Pour eux, voir et venir, c'est tout un. Cette étoile est comme un guide qu'il nous faut suivre. Et pour cela, les mages ont dû s'arracher à leur pays pour suivre cette étoile. Eh bien, nous aussi, il nous faut quitter le péché, dépouiller le vieil homme, renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, comme on dit dans les promesses du baptême, pour suivre l'étoile. C'est ce que Dieu aussi a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Et vous savez qu'Abraham, parce qu'il a fait cela, est justement le modèle de la foi. Il est notre père dans la foi, parce qu'il a su quitter ainsi toutes ses attaches pour suivre notre Seigneur, qui était encore pour lui qu'une promesse. Mais pour beaucoup, hélas, cette mise en marche ne se fait pas, ou elle demeure stérile. La lumière de la foi, reçue au baptême, n'est alors qu'une petite veilleuse qui continue de briller plus ou moins vaguement, un peu comme la mèche qui fume encore dont parle le prophète Isaïe, mais qui n'est pas assez puissante pour les arracher aux ténèbres, et même parfois qui s'éteint complètement. Eh bien, c'est l'exemple d'Hérode dans l'évangile que nous venons de lire. Hérode, lui, ne se déplace pas. Il dit aux mages d'aller, et il promet d'aller à son tour, ensuite, mais il n'ira pas. Et au contraire, son dessein est de faire mourir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'image de l'hypocrisie. C'est l'image de ceux qui voient l'étoile, mais qui ne la suivent pas, et qui au contraire refusent de la suivre. Il faut remarquer aussi que les mages ont fait route vers Jérusalem d'abord, avant d'aller à Bethléem. Ils ont été consultés les docteurs de la loi. Jérusalem, c'est l'image de l'Église. Et nous aussi, dans notre marche à l'étoile, nous devons passer par Jérusalem, c'est-à-dire par l'Église, par sa doctrine, par ses sacrements qui nous enseignent la route à suivre et qui nous donnent les moyens de la suivre. Et c'est seulement à ce moment-là que l'étoile qui s'était cachée un temps réapparaît et qu'elle conduit jusqu'à l'enfant Dieu lui-même. Alors, on pourrait remarquer qu'il est un petit peu étonnant que les mages aient dû aller ainsi consulter les docteurs de la loi qui, eux pourtant, alors qu'ils ont toutes les clés, ne vont pas faire le déplacement jusqu'à Bethléem. Voici ce que dit un commentateur à ce propos. Comment se fait-il que tout... Et il s'adresse à Jérusalem, en fait, il s'adresse à... plutôt à notre Seigneur, excusez-moi, il s'adresse à notre Seigneur. Comment se fait-il que tous vos enfants qui sont consultés par les mages et qui leur ouvrent le sens de l'Écriture, comment se fait-il que de tous tes enfants, donc il s'agit des docteurs de la loi, qui sont consultés par les mages et qui leur ouvrent le sens des Écritures, hein, tous ces docteurs de la loi qui avaient très bien vu que le prophète Michée avait prophétisé que notre Seigneur devait naître à Bethléem, alors comment se fait-il que pas un seul ne se joigne à ces païens pleins de foi, les mages étaient des païens, et ne les suivent dans leur heureux voyage? Ces scribes, ces prêtres, qui connaissent les mystères du temple, sont semblables aux ouvriers insensés qui bâtirent l'arche de Noé et qui n'y voulurent pas entrer. Les Écritures sont entre leurs mains, inutiles à leur propre salut, elles deviennent le fondement d'une autre. Frappés d'aveuglement, ils montrent aux gentils ce qu'eux-mêmes ne veulent point voir. Ils indiquent la route et n'y marchent pas. Il y aurait des applications à faire sans doute à notre temps d'aujourd'hui, hein, où on voit que beaucoup des docteurs qui règnent dans l'Église deviennent incapables, en quelque sorte, de découvrir et de suivre la vérité dont pourtant ils ont les clés. C'est la tradition de l'Église qui, précisément, nous montre cette route, quoi qu'il en soit, des docteurs modernes qui parfois l'occultent. Et les mages, une fois parvenus à Bethléem, adorent l'enfant Dieu, le reconnaissent en dépit des apparences, ce petit poupon couché dans une crèche, enfin qui n'était plus dans la crèche puisque l'Évangile nous parle d'une maison, mais qui était encore ce tout petit poupon qui ne savait pas encore parler, qui ne voulait pas encore parler, eh bien les mages le reconnaissent comme leur roi et comme le sauveur. Tout comme la foi nous fait reconnaître Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sous les voiles des apparences eucharistiques ou sous les traits humains de son Église et de ses ministres. Derrière tous ces voiles, c'est bien le Fils de Dieu que nous reconnaissons. Alors de tout cela, retenons qu'il nous faut marcher, nous aussi, quoi qu'il en soit de la longueur du chemin, d'un chemin hérissé d'obstacles qui va de l'Orient à Bethléem. C'est une route longue, parsemée d'embûches. Et une fois que l'enfant Dieu est trouvé, il nous faut l'adorer, c'est-à-dire se donner à lui sans réserve. Pour terminer, évoquons juste les présents que ces mages offrent à l'enfant Dieu. Vous connaissez le symbolisme de ces trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe, qui sont offertes à la fois à notre Seigneur comme roi, à notre Seigneur comme Dieu et prêtre, et à notre Seigneur comme future victime du calvaire. L'abbé Guéric, qui est un abbé cistercien qui vivait au XIIe siècle, voit lui aussi dans ces trois présents l'image des trois âges de la vie spirituelle, du progrès des âmes dans la charité. Puisqu'il nous faut aller à Jésus, marcher vers la crèche, il nous faut, en d'autres termes, progresser dans notre marche vers le ciel, dans notre marche vers Dieu. Alors, il dit que la myrrhe, c'est l'offrande des commençants, de ceux qui se détachent du péché. La myrrhe, en effet, symbolise l'ancienne vie de péché qui a été déposée au baptême. Et elle signifie aussi la mortification des sens et de la volonté propre. Tous ces efforts qu'il nous faut faire pour nous détacher du vieil homme, du péché. Et il faut offrir cette myrrhe, toutes ces mortifications, au Christ victime qui s'est sacrifié pour le rachat de nos péchés. L'encens, dit-il ensuite, c'est le présent des progressants. Bossuet a ce petit commentaire qui est très bien vu. L'encens, dit-il, est quelque chose qui s'exhale, qui n'a son effet qu'en se perdant. Exhalons-nous devant Dieu en pure perte de nous-mêmes. Donc il faut se dépouiller de soi-même. Puisque celui qui perd son âme la gagne. Celui qui renonce à soi-même, celui qui s'oublie, qui se consume lui-même devant Dieu, est celui qui offre de l'encens. Épanchons nos cœurs devant lui, offrons-lui les saintes prières qui montent au ciel. Voici ce que dit Bossuet. Donc l'encens, c'est bien l'image de la prière que nous devons faire, qui doit être incessante, pour nous rapprocher de Dieu, pour davantage le connaître, l'imiter, le suivre. Pour cela, il faut le regarder, le contempler. Et puis enfin, l'or, c'est le don des parfaits, c'est l'image donc du troisième âge de la vie intérieure, le don des parfaits qui symbolise donc l'union de la charité, la perfection de la charité, la perfection de la vie chrétienne qui s'est purifiée dans les épreuves. Vous savez que les métaux sont purifiés en étant chauffés. On les fait chauffer jusqu'à ce qu'ils deviennent liquides et ensuite on les verse dans un creuset de pierre pour que les scories se déposent au passage. Eh bien, c'est ce qui se passe pour l'âme purifiée, vraiment unie à Dieu, et qui c'est ainsi qui a déposé en quelque sorte toutes les scories, toutes les imperfections qui pouvaient encore l'habiter. Et en récompense, en réponse à leur présent, les mages repartent, mais ils repartent avec l'âme pleine de grâce, toutes ces grâces que l'enfant Dieu y a déposées. Mais l'Évangile nous dit, pour terminer, que les mages sont avertis en songe de prendre un autre chemin pour retourner dans leur pays. Eh bien, cet autre chemin, il y a encore là un symbole qui est plein de signification pour nous, c'est la vie nouvelle que désormais l'âme convertie doit emprunter. C'est par un autre chemin que désormais il faut nous conduire, qu'il faut mener notre route. Cet autre chemin, quel est-il? C'est Jésus lui-même qui nous a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La voie qui mène à la vérité et qui mène à la vie, qui mène au ciel. Alors retenons cet enseignement mystique de la marche à l'étoile en essayant de bien le mettre en pratique. Pour nous y aider, on peut relire la belle oraison que le célébrant a lue tout à l'heure, la collecte de cette messe. Ô Dieu qui avait révélé aujourd'hui votre Fils aux nations en leur donnant pour guide une étoile, faites dans votre bonté que, vous ayant déjà connu par la foi, nous parvenions à contempler l'éclat de votre gloire, et que la foi que nous recevons ici-bas, sous l'image de cette étoile, nous mène jusqu'à la gloire, jusqu'à la vision béatifique, pour que, pour l'éternité, nous puissions contempler Dieu, et que ce Dieu tout-puissant nous soit présenté, là encore, par la Vierge Marie, de même que c'est elle qui l'a présenté au mage lorsqu'ils se sont rendus dans la maison de Bethléem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.